Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1-877-827-2346.
Patrick Derry est avec nous. Est-ce qu'il est là?
Il est là.
Ah, ben mon Dieu, ça va bien. OK, ben déjà, il y a moitié de la job qui est faite. Patrick, bonjour. le bilan, d'abord, le bilan de COVID aujourd'hui, est-ce qu'on a atteint une espèce de plafond ou de normes?
Ben écoute, on est à 1631 cas, ça ressemble à hier. C'est la même chose à Montréal, 681 cas, on est très proche des totaux d'hier. Si je recule de quelques jours, tu vois, dimanche, on était, là, c'était bon 1600 cas, mais il y en avait 200 qui étaient attribuables à des journées précédentes. Donc, 1400 cas dimanche, 1400 lundi, 1500 mardi, 1600 hier, 1600 aujourd'hui. Fait que ce qu'on voit depuis 5 jours, c'est une légère hausse. Évidemment, il y a des fluctuations pour toutes sortes de raisons, le nombre de tests, des fluctuations locales. Fait que faut faire attention. On est en baisse par rapport à la semaine passée, il n'y a aucun doute, mais on n'est pas en baisse cette semaine. C'est disons qu'on va dire qu'on est à peu près stable, mais s'il y a une tendance, c'est une légère tendance à la hausse.
Est-ce qu'on peut regarder les chiffres en se disant on s'en sort pas pire dans les circonstances après le, tu sais, les fêtes, après tout ça?
Ben, tu sais, on en a déjà parlé, on s'habitue à tout. On voulait absolument pas dépasser les 1000 cas. Là, c'est sûr que quand on a eu des 2800 cas juste au tournant de l'année, 1600 cas, ça a pas l'air élevé, mais le long plateau de, on se rappelle là, autour de fin octobre, début novembre, là, on a eu un long plateau, on s'est promené autour de 1000 cas, à un moment donné, ça descendait à 900, ça remontait à 1100. Puis, quand la transmission communautaire est élevée, là, ça peut pas rester de façon indéfinie à un niveau stable. À un moment donné, ça finit, soit que ça descend, puis si ça descend pas, ben ça va remonter, c'est ça qui est arrivé. Et là, on est beaucoup plus élevé. Hein. C'est pas un plateau. Si c'est une espèce de plateau de plancher, plutôt, je devrais dire, là, mm-hmm. Il est pas à 1000 cas, il est à 1500, 1600. Ça m'apparaît encore très élevé.
Bon, on n'est pas sorti du couvre-feu de toute évidence. Hein? Les hospitalisations?
Les hospitalisations, ça a baissé. On est à 1426. Si tu regardes, par contre, sur la moyenne des derniers jours par rapport à la semaine passée, là, on est à peu près au même niveau. La différence, c'est que la semaine passée, ça montait. Là, ça a descendu un petit peu. Aux soins intensifs, ça a baissé de 4. Donc, on est à 212 patients aux soins intensifs. Donc, encore là, on est dans les mêmes eaux que la semaine dernière. Fait que c'est possible qu'on ait atteint un plafond des hospitalisations puis que ça redescende. En fait, ce serait logique avec la baisse des cas qui se poursuit depuis quand même un moment. Aujourd'hui, c'est le total des décès qui est extrêmement élevé. On a 88 décès qui sont ajoutés au total. C'est le plus haut total de la deuxième vague, puis même c'est un chiffre qui commence à ressembler à la première vague. Évidemment, c'est pas tous des décès qui sont survenus hier. Il y en a qui sont survenus dans les dernières 24 heures, mais il y en a beaucoup qui sont survenus avant. Sur le communiqué du gouvernement, on dit il y a une correction. Il y a plusieurs cas qui datent avant le 17 janvier, mais tu sais, le 17 janvier, c'est dimanche dernier, là. Mm-hmm. C'est quand même pas si loin que ça. Et à chaque jour, quand on annonce un 50, un 60 cas, là, décès, pardon, c'est 8, 10, 12, 15 décès qui sont survenus dans les dernières 24 heures. Donc, on est toujours en train d'ajouter des décès en arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on ajoute 50, 60 cas, c'est un nombre réel de décès. Puis si c'est en hausse, ça veut dire qu'il y a une accélération qu'on va voir au final, même quand les décès vont être répartis. Donc ça c'est pas la bonne nouvelle.
Ouais, Patrick, est-ce qu'il est trop tôt pour faire des constats aux effets du couvre-feu?
Absolument. Hier, en point de presse, pour rappel, le premier ministre et Dr Arruda ont attribué la baisse qu'on voit depuis 3 semaines au couvre-feu qui est entré en vigueur il y a 2 semaines. En gros, c'est à peu près ça qu'ils ont dit. Et ils sont même félicités de ça, mais quand tu regardes les chiffres, ça n'a aucun sens. D'abord parce que quand la baisse a-t-elle commencé? On le regarde sur les graphiques qui sont publiés chaque jour dans les journaux. On le voit. Ceux qui compilent les chiffres comme moi le savent aussi. Le sommet des cas au Québec a été atteint autour du jour de l'an, là, 31 décembre, 2 janvier. Là, il y avait un petit peu moins de cas entre les deux. Après ça, ça a commencé à baisser. Il y a eu une journée où on a 3000 cas qui a été rapporté, mais ça, c'était une correction à Montréal principalement, fait que c'était hors norme. Mais pour tout le reste, ça baisse depuis 3 semaines. Le couvre-feu, donc, lui est entré en vigueur le samedi, le 9 janvier. Donc, une semaine comme il faut après le début de la baisse. Et c'est pas seulement ça, c'est que l'effet d'une mesure sanitaire, peu importe que ça soit là, qu'on ferme des endroits, qu'un confinement ou le couvre-feu, là, supposer que c'est un effet, puis ça, c'est pas encore certain que ça va en avoir un ici, ça prend du temps avant de se faire sentir dans le réel. T'sais, c'est pas le 10 janvier au matin, quand tu as un coup de couvre-feu la veille, les cas se mettent à baisser par magie. Il y a un délai. C'est-à-dire que d'abord, entre la contamination puis l'infection par un cas, c'est-à-dire que tu as un contact avec quelqu'un, puis après ça, tu contractes et tu es infecté, ça peut prendre 3-4 jours, des fois plus. Après ça, tu as le délai entre l'infection puis l'apparition des symptômes, puis après ça, tu vas te faire tester. Et tout ça, ça peut prendre, et quand le cas est rapporté, ben il peut s'être passé 7 à 10 jours avant que la contamination et entre le cas soient rapportés. Donc, à l'inverse, pour que le couvre-feu ait de l'effet, pour qu'on puisse mesurer ses effets, ça va prendre facilement de 7 à 10 jours. Fait que si tu calcules à partir du 9 janvier, 7 jours plus tard, on est rendu au 16. Mmh. Hier, on était le 21, avec les chiffres du 20, c'est toujours les chiffres de la veille. Fait que dans le meilleur des cas, là, ça faisait peut-être 3-4 jours que le couvre-feu commençait à faire sentir ses effets. Et qu'est-ce qu'on voit depuis 3-4 jours? On voit une légère hausse. On est à peu près à 200 cas de plus par jour qu'on l'était au début de la semaine. Fait que c'est ça.
Bon, là,
c'était probable.
Faut se rentrer en tête que le 8 février, peut-être qu'il y aura... on va peut-être continuer le couvre-feu.
Et c'est surtout les autres mesures, là, particulièrement pour Montréal et pour Laval, là, mais il y a une cause très probable de la baisse. D'abord, la baisse est réelle, il n'y a aucun doute. Là. Je veux dire, c'est pas des fluctuations dans le dépistage. La baisse est vraiment forte et significative et soutenue, est accompagnée par ce qui ressemble à une espèce de plafonnement des hospitalisations. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est la réduction des contacts avant les fêtes. À partir du 17 décembre, les écoles ont fermé. En fait, les élèves ont été envoyés à la maison. Il y a beaucoup de gens qui ont pris congé à partir de ce moment-là, entre autres avec leurs enfants, mais aussi parce que le congé des fêtes commençait. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, le niveau de contact a baissé. Le secteur de la construction, ça a baissé. Dans le manufacturier, un peu partout, là, dans tous les secteurs. C'est pas tout le monde qui prend congé, mais il y a beaucoup de gens qui prennent des congés, au moins partiels aux fêtes, puis il y en a qui même totalement, puis il y en a même qui vont prendre congé en dehors du Québec. Fait que tout ça, ça ouais. Fait que il y a moins de contacts. Fait que donc, la hausse, ça s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'année, pendant une dizaine de jours, 2 semaines après la fin de la réduction des contacts. C'est tout à fait logique, c'est ça qu'on voit depuis le début. Mmh. Puis après ça, ça baisse après.
Bon, et pendant ce temps, il y a le cancer qui existe encore, hein?
Oui, le cancer existe encore et ça c'est l'effet qui est le plus difficile sur le système de santé. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a énormément de chirurgies qui ont été reportées. Mais il n'y a pas juste des chirurgies qui ont été reportées, il y a aussi des examens. Et ce qui fait que des cancers qui sont découverts par hasard, ils sont découverts plus tard, ils vont être un petit peu plus graves, mais aussi des gens qui ont des cancers, qui doivent passer des chirurgies pour ça, pendant ce temps-là, le cancer se développe, même si le cancer est connu. Et là, présentement, il y a un rapport du ministère de la Santé qui est sorti et qui dit que plus de 4000 Québécois qui ont un cancer n'auraient pas été diagnostiqués au printemps pendant la première vague. Fait que ça, c'est seulement pendant la première vague. Fait que c'est et là, on l'accumule avec ce qui s'est passé cet automne, donc ça va être, si on veut, là, je sais pas s'il va y avoir une troisième vague de la COVID, mais en tout cas, il va y avoir une autre vague après, là, qui est peut-être une quatrième vague, et ça va être une vague de toutes sortes de problèmes qui n'ont pas été détectés.
OK, on va attendre avant d'annoncer l'apocalypse, Patrick, on va attendre. Là. C'est déjà assez difficile de vivre ce qu'on vit. On va garder espoir, là, on va se laquer à la poulie.
Je te parlerai du vieillissement de la population une autre fois.
Ah oui, je t'en prie. Pas aujourd'hui, pas vendredi. Dis donc, Julie Payette a démissionné, elle s'est faite démissionner, puis on remet en question le rôle de la gouverneure générale.
Oui, mais c'est ça, l'ex-astronaute qui, écoute, c'était des allégations de harcèlement. Il était question d'un climat de terreur. Madame Payette qui criait et qui humiliait publiquement ses employés. Ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'il y avait déjà de forts indices avant la nomination de Madame Payette. On se rappelle, elle avait été arrêtée aux États-Unis pour une agression qui était finalement contre son mari. Il n'y a pas d'accusations qui ont été... les accusations ont été retirées par la suite, mais tout de même, quand elle a travaillé au Centre des sciences, il y a eu des plaintes des employés. Elle a quitté. Elle a été au Comité olympique canadien. Il y a eu des problèmes. Elle est partie. Fait que, tu sais, tous les indices, là, ça donne un peu l'impression que Madame Payette avait l'air d'une personne un petit peu constamment enragée. Et qu'il faut rappeler, c'est que normalement, il y a un comité qui valide la candidature du gouverneur général, parce qu'évidemment, c'est un poste qui est prestigieux et qui est important, ne serait-ce qu'au niveau protocolaire. Et M. Trudeau, lui, avait pas trouvé ça nécessaire de faire valider la candidature par le comité. Tu sais, ça aurait pris juste un appel aux anciens employeurs, puis on aurait eu quelques informations. Puis c'est moi, c'est peut-être ce que je trouve le plus triste là-dedans, c'est la réaction du premier ministre. Ouais.
Il s'en sort encore. Là. Il a fait preuve de mauvais jugement, mais là c'est comme SNC-Lavalin, c'est comme tous les autres scandales, là. C'est comme la GACAN, c'est comme le blackface, mais il y a pas de conséquences.
T'as un peu raison. Moi, c'est l'affaire qui est le plus étonnant, c'est que il y a une image qui est tellement forte. D'abord, c'est quelqu'un de toute façon, c'est un gars sympathique, c'est un gars qui est facile d'approche. Il aime ça être avec les gens, il prend des selfies, il fait des blagues, il est à l'aise avec le monde, il est drôle, il paraît très bien. On penserait quand même à un moment donné que ça finirait par se fissurer. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est pendant la pandémie, tu sais, avec les points de presse très fréquents du premier ministre. On n'a pas toujours l'impression que M. Trudeau comprend ce qu'il dit. C'est des fois, il a l'air un peu d'un robot qui répète les mêmes choses, que les travailleurs canadiens vont continuer à travailler. Puis, ouais. En septembre, il avait d'ailleurs dit que Mme Payette était une excellente gouverneure générale. Il est pas capable de prendre une position claire dès que c'est moindrement complexe, puis à part quand c'est temps de blâmer le Québec et les provinces en général, là, mais tu sais, les questions de politique publique là, qui devraient être la raison de son engagement politique, ça semble pas vraiment l'intéresser. Puis il semble pas vraiment décider non plus. Tu sais, on va-tu fermer, fermera pas les frontières, on va-tu contrôler, on contrôlera pas les voyageurs.
Il pense beaucoup, il continue de travailler beaucoup, il y a des meetings, mais peu d'action. Là, juste l'histoire, Patrick, des voyageurs, bah, tu sais, les voyages non essentiels, ils n'arrivent pas à prendre la décision. Là, il dit, ben, on réfléchit, ça peut pas être plus flambou que ça, là.
Moi, écoute, je pense que la question qu'on doit se poser, puis je comprends pas pourquoi, là, tu sais, que c'est pas posé plus souvent, c'est c'est quoi la raison de l'engagement politique? Veux-tu être là parce que tu veux être là ou t'es là parce que t'as des idées? Puis tu sais, je vais donner un autre exemple qui est Stephen Harper, avec qui là, je pourrais donner une longue liste de désaccords. Là. C'est par exemple sur certaines actions qui ont été prises, notamment par rapport au recensement, Statistique Canada et ainsi de suite. Mais Stephen Harper, tu peux pas douter qu'il est allé en politique parce qu'il y avait certaines idées qu'il voulait défendre, qu'il voulait mettre en place. Il y avait une réflexion sur la société canadienne qu'on peut ou ne pas partager, mais on peut pas douter qu'il y avait cette réflexion-là. Puis on peut pas douter non plus que lui, il voulait quand même le meilleur pays pour lui, pour ses enfants, pour tous les Canadiens. Il y en avait une vision qui était peut-être différente de celle de beaucoup de Québécois, quoi qu'il y en ait qui la partagent, mais c'est une vision qui était légitime. Et M. Trudeau, on sait qu'il aime ça être là, mais on sait pas encore trop pourquoi, puis ça fait quand même, ça commence à faire longtemps qu'il est là.
Ouais, ça fait, on va faire 6 ans, là, qu'il est là. C'est, à un moment donné, il faudrait bien connaître ses vraies intentions, ses vraies motivations. Mais en tout cas, là, il paraît bien, il passe bien à la télé, il a plein d'amis, il a plein de, tu sais, son cercle d'amis est assez large. Fait que, c'est peut-être une bonne motivation. Mais là, ce qu'on voit, c'est que, en tout cas, on n'est pas prêt de nommer un nouveau gouverneur général. Nous, on a pensé, Patrick, je veux juste avoir ton avis avant qu'on se quitte. Antoine Robitaille et moi, c'est l'idée d'Antoine. Il voulait proposer Caroline Saint-Hilaire.
Bon, écoute, ça serait sûrement mieux Julie Payette.
Ça peut pas être pire. Patrick Derry, merci, et on se reparle. Merci.
Hey, bonne fin de semaine.